bravo pour votre exposé qui a d'avoir une très grande clarté, vraiment, sur un sujet très compliqué. Alors, ma première question pour reprendre votre exposé, j'ai du mal à comprendre comment on peut considérer que Hitler a gagné, il a contaminé les démocraties, certes, il a créé le nazisme qu'on a retrouvé un peu partout. Mais heureusement, ce nazisme, ou ces nazis, ou ce mouvement nazi est resté heureusement minoritaire. Donc, j'ai du mal à voir de quelle manière il a gagné. On peut dire qu'il a gagné.
Voilà une première question. Une deuxième.
Oui, l'attitude de Jacques Ellul, telle que tu l'as décrite, hein, très provocatrice, etc. Je me demande si, au fond, Jacques Ellul n'est-il pas un prophète ? Et un prophète ne dit pas toujours des choses qui font plaisir, mais ça aide à décoder le lieu où l'on est, les signes qu'on peut voir, etc. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas chez Jacques Ellul une dimension prophétique ? Il ne me semble pas que tu aies prononcé ce mot, mais voilà.
La question, ça fera un premier.
C'était prophétique du message de la non-puissance. Je pourrais presque le rapprocher des limites qu'on devrait se fixer. On vit dans une société, on la sent bien, sans limite. Il n'y a plus de limite. Et peut-être c'est ça qui rapproche se rapproche du message de la non-puissance des humanités. Et j'aurais juste une petite question aussi à poser. Est-ce que Ellul a connu ou rencontré Simone Veil, la philosophe ?
Voilà. Merci beaucoup pour ces premières questions. Alors, d'abord, à propos de la victoire d'Hitler. Quand Jacques Ellul écrit cet article, qui, vous pouvez l'imaginer, est tombé comme un pavé dans la mare, hein, n'a pas forcément plu, mais en général, ces articles ne plaisaient pas beaucoup. C'est avec le recul qu'on peut réfléchir, mais sur le coup... Donc le contenu de l'article ne parle pas du tout du mouvement néo-nazi. Hein, il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas d'une renaissance de partisans d'Hitler. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la contamination des démocraties par des éléments que Hitler a mis en avant. Alors, quels sont ces éléments ? La puissance technicienne qui a permis à nos aïeux de l'emporter sur Hitler, c'est parce que nous étions un peu plus puissants que lui, et heureusement, il n'a pas eu le temps de mettre au point la bombe atomique, donc nous, les vainqueurs, on l'avait, hein, et ils ont pu ainsi, d'une certaine manière, mettre un terme à la guerre mondiale sur le Japon aussi, hein, donc c'est parce qu'on a pris, il a fallu, il n'y avait pas d'autre moyen de l'emporter, hein, il fallait être plus puissant, et donc on a mis au point même la bombe atomique. Et ça, les démocraties ont donc été contaminées par ce virus de la démesure technicienne. Deuxième élément que Ellul, j'en ai pas du tout parlé, mais là il faudrait y consacrer plus de temps, c'est la question de la propagande. Pourquoi est-ce qu'on a gagné la guerre ? C'est aussi grâce à la propagande. Et la propagande hitlérienne, on le sait, la propagande stalinienne aussi, était extrêmement fine, extrêmement puissante, extrêmement efficace. Je ne l'ai pas dit, mais Jacques Ellul a consacré deux livres à la propagande et tout un cours qu'il donnait à l'Institut d'études politiques de Bordeaux sur la propagande, donc il montre comment ça fonctionne. Eh bien, les démocraties en ont pris de la graine, si j'ose dire. Elles ont adopté des techniques très fines de propagande pour faire de la propagande à l'intérieur même des démocraties. Et qui a ce qu'il appelle la propagande horizontale, qui n'est pas forcément une propagande totalitaire, mais qui est une manière de conditionner, de conformer nos styles de vie. Alors, il y a la publicité, mais ce n'est pas que la publicité, c'est tous les discours politiques qui nous conditionnent, qui nous formatent. Et cela, c'est un héritage du Troisième Reich, parce qu'on a utilisé les mêmes techniques que... Il le montre, hein, je n'ai pas le temps de le montrer ici, il le montre très, très précisément combien on a utilisé en démocratie les mêmes techniques en les adaptant à notre situation démocratique que Goebbels utilisait, par exemple, ou Staline ou Mao par la suite. Et puis alors la torture, la banalisation de la torture et même des camps de concentration, ça aussi, y a de la torture démocratique maintenant. Et ça, on ne pouvait pas l'imaginer avant, et ça a été ainsi aussi un virus. Donc c'est dans ce sens-là. On peut discuter sa thèse, on peut dire qu'il n'avait pas raison, mais c'est cela qu'il dit. Il ne parle pas du néo-nazisme, il parle des démocraties qui ont été contaminées par une sorte d'esprit nazi. Alors, la deuxième question sur le prophétisme de Jacques Ellul, j'ai pas en prononcé le mot parce que bon, on a souvent entendu dire que Jacques Ellul était un prophète, et de son vivant aussi, on lui a demandé, vous êtes un prophète, et lui a toujours refusé cette catégorie parce qu'il dit, au sens biblique, un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom du Seigneur, et il n'avait pas cette prétention. Donc il dit, moi je suis pas un prophète, je suis un prévisionniste. Il y a des points communs avec le prophète, c'est-à-dire qu'effectivement, il dit des choses qui ne font pas plaisir à tout le monde. Il espère se tromper, encore que quand il s'identifie parfois au prophète Jonas, eh bien, Jonas, il est en quelque sorte mécontent de s'être trompé, en quelque sorte. Enfin, il ne s'est pas trompé, il a été efficace. Sa prophétie a été efficace, les gens se sont convertis, et du coup, eh bien, ce qu'il avait annoncé n'a pas eu lieu. Et donc, Ellul travaille le personnage de Jonas en disant, ben voilà, je ne suis pas prophète, mais j'aimerais bien me tromper, à la différence de Jonas. Et donc, j'ai des choses qui ne sont pas agréables à dire, personne ne m'écoute. Ellul était complètement ostracisé de son vivant, c'est seulement depuis une dizaine, une quinzaine d'années qu'on réédite ses ouvrages qui étaient tous épuisés, introuvables, il y a 20 ans. Maintenant, on ne jure que par lui dans tous les milieux. Et donc, il aurait préféré avoir tort. Et il disait, même si on ne m'écoute pas, je crains bien, malheureusement, d'avoir vu juste pour l'avenir. Et il avait même prévu qu'un jour, on le reconnaîtrait. On le reconnaîtrait comme étant celui qui avait eu raison trop tôt. Voilà, donc, mais c'est vrai que, comme un prophète, il aide à décoder la situation, il aide à voir et il engage des changements de comportement et de vision du monde. Simplement, lui-même n'assumait pas cette catégorie de prophète. Et enfin, la troisième question, donc sur les limites, c'est vrai, il n'y a plus de limites aujourd'hui. Si on prend l'exemple du transhumanisme, c'est quand même un mouvement de pensée de plus en plus puissant aujourd'hui, qui est soutenu par des fonds inouïs dans la Silicon Valley. C'est financé à la fois par des fonds publics, le Pentagone notamment, la NASA, et par des fonds privés, Google, Microsoft, etc. C'est donc des recherches, tout un courant de pensée et de recherche qui vise, tenez-vous bien si vous ne connaissez pas encore le transhumanisme, à vaincre la mort d'ici 30 ans. C'est-à-dire que nous sommes la dernière génération à mourir. Après nous, on ne mourra plus. Parce que par les progrès techniques médicaux, qui sont assez impressionnants quand même, ces dernières années, et qui vont devenir de plus en plus impressionnants, ben on arrivera à changer les pièces de notre mécanique pour devenir des cyborgs, c'est-à-dire des hommes-machines, et donc immortels. Mais ça intéresse beaucoup le Pentagone parce que ça sera aussi des soldats invincibles qui auront la possibilité de voir à 2 km comme à 30 cm, qui ne seront jamais fatigués, qui pourront porter 100 kg sur le dos, des cyborgs militaires. Là, il n'y a plus de limite. On peut dire où est-ce qu'on va. Si on abolit la mort, il n'y a plus de limite. Et effectivement, Ellul insistait sur l'importance de remettre des limites, de remettre des seuils. Par exemple, dans une tradition judéo-chrétienne, il insistait sur l'importance du Shabbat. C'est important d'arrêter de travailler de temps en temps. C'est important de donner des limites à notre vie quotidienne. Et donc la non-puissance, bon, j'ai été un peu vite peut-être, mais il donne des exemples très concrets. Il dit la non-puissance, ça commence dans le quotidien. Si je suis au volant de ma voiture, je suis sur l'autoroute, je peux rouler à 130, même plus s'il n'y a pas de radar. Mais la non-puissance consiste à rouler à 90 ou à 100, à partir peut-être un peu plus tôt pour rouler tranquillement, être détendu et arriver détendu. Donc on n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on peut le faire techniquement, on peut aller à 130, on peut même techniquement, pas légalement, mais techniquement aller au-delà s'il n'y a pas de radar, mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire. C'est très facile d'appuyer sur l'accélérateur, mais la non-puissance consiste à ne pas faire tout ce qu'on est en mesure de faire. Avec Internet, pareil, on peut faire des quantités de choses, mais on n'est pas obligé. Hein, la non-puissance nous amène à, de temps en temps, nous déconnecter, voire même pendant un week-end, une semaine, voire même des vacances. Ça, c'est la non-puissance, ça commence là, hein, la déconnexion. Et puis la consommation, hein, si on a un peu d'argent, ben, on peut acheter des quantités de choses, mais on n'est pas obligé, parce qu'on peut aussi discerner ce qui est bon dans notre style de vie, dans notre consommation. Et donc là, tout à fait, Jacques Ellul nous invite à discerner dans notre style de vie ce qui vaut la peine, ce qui a du sens, ce qui est dans l'amour, et puis ce qui peut être peut-être aliénant, ou inutile, ou dangereux. Alors, par rapport à Simone Weil, je ne crois pas qu'il ait rencontré Simone Weil. Par contre, il connaît son œuvre, donc il la cite, mais je ne crois pas qu'il se soit rencontré. Simone Weil était en Angleterre pendant la guerre, et puis elle est morte. Hein. Voilà, 43, elle est morte en 43. Lui-même a fait de la résistance, mais bon, en France, hein, autour de Bordeaux. Donc, ils n'étaient pas dans les mêmes régions, et voilà. Je ne pense pas qu'il se soit connu.
Ces engagements, on peut dire la volonté de lui, des engagements, une forme de pureté.
Alors, pour ce qui concerne l'engagement dans la résistance, Jacques Ellul n'a jamais porté les armes. Il était un non-violent, non-puissant. Par contre, il a fait de la résistance en fabriquant des faux papiers, en cachant des familles juives, en prévenant trois familles juives pour qu'elle se cache, pour qu'elle fuit au moment d'une, parce qu'il a eu vent d'une rafle, donc il a la médaille des justes pour avoir sauvé trois familles juives. D'ailleurs, un descendant de cette famille que j'ai rencontré, qui habite à Nancy, je l'ai rencontré encore tout récemment, qui est venu témoigner de ce que Jacques Ellul a permis à ses parents et à lui-même, qui avait 9 ans à l'époque, de fuir. Et il a fait passer, parce qu'il habitait juste sur la ligne de démarcation, il a fait passer des fuyards, des réfractaires au STO et des juifs de part et d'autre de la ligne de démarcation. Voilà, c'était ça sa résistance. Mais il n'a jamais été un maquisard.
Oui, il y a un point que vous avez évoqué qui me pose question. C'est quand vous dites le pouvoir n'est pas entre les mains des hommes politiques. Les hommes politiques ont d'innombrables conseillers. Évidemment, ils ne peuvent pas tout connaître sur tous les sujets. Ils sont conseillers, mais ce ne sont pas les conseillers qui décident, ce sont eux qui décident. Donc, renvoyer leur pouvoir à leurs conseillers, ça ne me semble pas tout à fait exact.
Élisée, quel lien Jacques Ellul avait véritablement avec la nature ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a récupéré cette belle formule, la sobriété heureuse. Et puis, je bien aimé aussi la profanation de la loi de Gabor. Mais quel lien avait-il véritablement avec la nature ?
Si Jacques Ellul doit nous aider à traverser les crises, il me semble que ce n'est pas seulement par rapport à l'espérance de la présence d'un Dieu aimant, mais aussi par rapport au discernement. Alors, vous avez fait allusion à la propagande. Ça me semble très important chez Jacques Ellul de nous donner cette liberté de comprendre les choses, notamment de discerner la propagande, parce que je trouve dans la crise qu'on traverse, il y a beaucoup de propagande, et l'anticonformisme, l'importance de l'anticonformisme. Et puis, j'ai une question aussi, parce que est-ce que l'espérance pour Jacques Ellul se réduit seulement à une présence aimante de Dieu dans les moments difficiles ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quelque part, la notion d'espérance messianique, et je pense notamment à sa théologie vis-à-vis d'Israël.
Merci. Trois questions. Merci beaucoup. Bon, on a toute la nuit, non pas tout à fait, parce que ce sont des grandes questions, hein, qu'on pourrait consacrer beaucoup de temps. Alors d'abord sur la politique, donc sa déception devant le dessaisissement du pouvoir par les hommes politiques dont il a fait l'expérience. Alors, Vous avez raison de dire que ce sont les hommes politiques qui décident. En même temps, son expérience, c'était, concrètement, c'était tous les jours, il avait 20 dossiers sur lesquels il devait statuer, il avait sa profession à côté et donc peu de temps, mais avec sa conscience professionnelle, sa rigueur, il analysait à fond 3-4 dossiers par jour. Donc il en restait 16-17. Et pour cela, il faisait confiance aux techniciens qui avaient déjà orienté. Déjà, la manière de monter le dossier était déjà une manière d'orienter. Et les conseillers avaient déjà décidé qu'il allait signer. Alors, il aurait pu dire non, mais au nom de quoi? Il n'avait pas le temps de prendre en compte, d'étudier. Et il dit, un ministre de la République, il a 200 dossiers par jour. Et donc, il fait confiance aux conseillers. Et les conseillers, ils sont toujours, comme ils sont formés dans des écoles, qui sont pas très critiques vis-à-vis de l'orientation technicienne, technolâtre, hein, cette idolâtrie de la technique, forcément les dossiers vont aller dans le sens technicien. Il allait même jusqu'à dire, vous serez peut-être pas d'accord, mais il allait même jusqu'à dire, même un gouvernement écologiste, entièrement vert, imaginons, voilà, un gouvernement entièrement vert, ben, il ferait pareil, parce que il aurait les mêmes techniciens, les mêmes experts qui sont conditionnés par des formations qui vont toujours dans le sens. On peut faire de l'écologie technicienne, hein, on peut penser que ce sont les innovations techniques qui vont nous permettre de traverser la crise écologique au nom de l'écologie. Hein, il y a tout un courant qui dit cela. Et Lull, vous avez compris, ne croyait pas du tout à cela, parce qu'étant donné que la technique est toujours ambivalente, eh bien, il y aura toujours des catastrophes, même si c'est pour sauver le climat. Et donc, même un gouvernement vert, disait-il, ne serait pas meilleur qu'un autre parce que il n'aurait pas plus d'impact qu'un autre parce que ce seront toujours des conseillers qui, bien sûr, ne signent pas, mais qui orientent pour que la signature vienne. Et donc, à partir de son expérience, il a renoncé à la politique. Et là, il ne faut peut-être pas le suivre jusque-là. En tout cas, moi, je ne suis pas jusque-là. Il a même renoncé à voter. Hein. Donc, vous voyez, à partir de 1945, il n'a plus du tout voté, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Je ne crois même pas qu'il votait blanc, hein. Il s'abstenait. Il allait à la pêche. Donc, c'est pas forcément. Je ne dis pas qu'il faut faire comme Élu, hein, mais voilà ce qu'il nous dit. Il ne croyait tellement pas au système politique qu'il s'était même totalement désengagé, même de ce devoir citoyen, en considérant que, par contre, monter des petits groupes de résistance, ça c'est efficace, c'est beaucoup plus utile, et ça peut donc avoir un impact pour sauver une région du bétonnage, hein, de ce qu'on appelait l'aménagement de la côte aquitaine. Ben, en fait, c'est le bétonnage, une deuxième côte d'Azur. Ben, ça, il l'a évité, non pas en faisant de la politique partisane avec des partis, avec des élections, mais par des petits groupes de résistance locaux. Alors, ça amène au deuxième, la question du lien avec la nature. Alors, Élul est un urbain, hein, il est né à Bordeaux, il a pratiquement vécu toute sa vie à Bordeaux. N'empêche que, il y a un moment de sa vie que je n'ai pas du tout raconté par manque de temps, mais sachez que quand il était chargé de cours en droit à Strasbourg, l'université de Strasbourg a été transférée à Clermont-Ferrand à l'automne de 1939, au moment de la drôle de guerre, et au moment de la débâcle, enfin au moment de l'armistice, en mai 1940, il a été révoqué de l'université pour avoir dit du mal du maréchal Pétain. Hein, ses étudiants alsaciens lui demandaient qu'est-ce qu'il faut penser du maréchal Pétain, qui venait de prendre les pleins pouvoirs, et il a dit « méfiez-vous du maréchal Pétain ». Un de ses étudiants l'a dénoncé, toujours se méfier de ses étudiants, n'est-ce pas ? Un de ses étudiants l'a dénoncé, et il a été révoqué de l'université en juin 1940. Il a même dû rembourser son salaire depuis janvier 1940. Bref. Et donc, il s'est retrouvé sans ressources. Il avait déjà un bébé, hein, marié avec un bébé. Il s'est retrouvé sans ressources à l'été 40. Eh bien, il s'est installé dans un village de Martre, en Gironde, et il a appris le métier de paysan avec les paysans de Martre. Donc, il a appris à cultiver la terre, à élever des poules et des lapins, à cultiver des pommes de terre, etc. Et il était très heureux, dira-t-il, pendant les 4 années de la guerre, d'occupation et donc de la résistance, il a vécu du travail des mains dans la campagne de la Gironde. Par ailleurs, il a organisé avec son ami Bernard Charbonneau régulièrement des camps de jeunes en pleine nature. Et vraiment des camps assez spartiates. Hein. C'était bon, un peu des camps scouts, mais pour des plus âgés, des étudiants. Il emmenait ses étudiants dans des endroits qui étaient dans les Pyrénées, notamment en Espagne, où on vivait de manière très, très sobre, on va dire ça comme ça, de manière très spartiate, ascétique. Et on admirait la nature, on contemplait la nature, et puis on travaillait aussi intellectuellement, on refaisait le monde tous les soirs, etc. Donc il a ce lien avec la nature qui est une sorte d'immersion régulière dans des camps. Enfin, il a échoué, parce qu'il n'y a, que la côte d'Aquitaine qu'il a pu sauver, mais il s'est engagé aussi pour sauver des forêts plus dans le sud-ouest, hein. Et il a à chaque fois échoué, mais il a essayé de sauver un certain nombre de forêts qui étaient menacées par des projets de développement, d'aménagement, d'autoroutes, etc. Et chaque fois, il a échoué. Donc, il avait ce lien de protection des arbres, de protection de la forêt, qui était pour lui donc un engagement. Donc, c'était un intellectuel, mais il y avait cette fibre, quand même, cette sensibilité à la nature. Lui-même n'a pas été scout, à différence de Bernard Charbonneau, qui a été un grand précurseur de l'écologie du fait du scoutisme unioniste, hein, du scoutisme protestant. Jacques Ellul a grandi dans une famille détachée de l'Église, donc ni catéchisme ni scoutisme, mais c'est à l'âge adulte, grâce à son ami Bernard Charbonneau, qu'il a découvert cette sensibilité à la nature. Et puis alors la troisième question, pour traverser les crises, il est important de discerner, notamment parmi tous les discours de propagande, et d'adopter une posture anticonformiste, c'est tout à fait exact pour parler d'Ellul. Il nous donne d'ailleurs dans son gros livre qui s'appelle Propagande, hein, beaucoup de clés pour déconstruire la propagande, hein, pour déconstruire les discours, et il montre de manière assez saisissante, il parle de la propagande de Goebbels, de Mao, de Staline. Et puis, insensiblement, il passe à la propagande démocratique et montre que ça fonctionne pareil. Et donc, c'est vraiment saisissant de lire ce livre, qui est un cours, d'ailleurs, qui est donné à l'Institut d'études politiques. Il nous donne des clés de lecture, une grille de lecture et des clés pour comprendre et déconstruire la propagande. L'anticonformisme est essentiel pour lui. Si vous connaissez les écritures bibliques, vous savez peut-être qu'il y a un verset qui était pour Ellul le verset central, chacun a son verset préféré, mais c'est dans le chapitre 12 de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ne vous conformez pas. Et donc cet anticonformisme, pour lui, était fondamental. Alors après, sur l'espérance messianique, là, il faudrait vraiment du temps pour en parler. Le rapport de Ellul à Israël et au peuple juif d'une façon générale est un rapport assez complexe et il était très proche du peuple juif. D'ailleurs, il avait probablement des ancêtres juifs, hein, puisque Ellul, c'est un terme hébreu, c'est un terme du calendrier hébraïque. Hein. Elul, c'est un des mois du calendrier hébraïque. Mais il n'a pas retrouvé, il a fait de la généalogie, il n'a pas retrouvé, donc c'est des ancêtres très lointains. Probablement, qui était juif du côté paternel et peut-être même du côté maternel. Mais voilà, il n'a pas trouvé le lien avec ses ancêtres probablement juifs. Et il avait donc une affinité très grande avec le peuple juif. Il était vice-président de l'amitié judéo-chrétienne pendant un certain nombre d'années. Il a écrit plusieurs livres, notamment un livre sur les chapitres 9 à 11 de l'épître aux Romains, où l'apôtre Paul affirme que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Donc c'est une méditation de ce texte pour s'inscrire en faux contre toute la théologie de la substitution d'Israël par l'Église. Donc il y a certainement une espérance messianique dans ce sens-là, dans son engagement contre l'antisémitisme. Maintenant, il y a également un lien avec la terre d'Israël, chez Jacques Ellul, il a écrit un livre qui s'intitule « Un chrétien pour Israël », un livre qui a fait beaucoup de polémiques, hein, puisqu'il a pris parti pour Israël. Simplement, il n'est pas ni un juif messianique, ni un chrétien messianique au sens où il ne considère pas que la terre d'Israël est le lieu où le Messie reviendra, etc. Il ne rentre pas dans ces considérations-là, mais il a un amour particulier pour Israël et pour la terre d'Israël et pour le peuple juif. Alors, on va dire ça comme ça. Il faudrait plus de temps pour en parler davantage, mais donc il a certainement hérité cette espérance de la tradition judéo-chrétienne, ça c'est clair, et sans doute de sa relecture du Premier Testament. Mais il n'adhère pas à la théologie des chrétiens messianiques qui ne jurent que par Israël.
Il y a encore du temps.
Oui.
Je pense que j'ai entendu Macron qui se vantait d'avoir fait un stage vers Ellul. Et malgré tout, ou quoi ?
C'est avec Ricoeur, c'est pas avec Ellul. Mais ça, c'est vrai, hein, Macron. Si vous lisez le livre de Paul Ricoeur qui est publié en 2000, qui s'appelle « La mémoire, l'histoire, l'oubli », page de garde, la deuxième page du livre, vous avez un remerciement à Emmanuel Macron, qui est un total inconnu à l'époque. Bon, il était membre de du conseil éditorial de la revue Esprit, mais c'est tout, et qui était donc stagiaire, qui a aidé Paul Ricoeur, qui a fait des fiches de lecture pour que Ricoeur, qui était déjà très âgé, hein, qui avait... 80, presque 90 ans, donc il a aidé à rédiger ce gros livre, La mémoire, l'histoire, l'oubli. Mais aucun rapport entre Macron et Ellul.
Pour en revenir à la crise qui nous touche là, à cause de l'Ukraine, justement, il faut être impuissant, il faut reconnaître qu'on est impuissant. On serait plus. Je me dis des fois. Pourquoi on rentre pas dans le conflit, quoi, et on est obligé de montrer notre impuissance, enfin le pays, les pays, l'Europe. Alors est-ce que c'est justement l'attitude des dirigeants actuellement, c'est une prudence mais qui est intolérable en fait, quoi.
Derrière.
Oui. Oui. Pour en revenir justement à la crise, enfin, au risque du religieux dont vous avez parlé tout à l'heure, et notamment pour le problème de l'Ukraine, comme vous nous dites que le patriarche de l'Église orthodoxe soutient Poutine, ne pensez-vous pas que. Que pensez-vous ? Ce soutien est-il dû ? Est-il religieux ou est-il tout simplement dû au lien que cet homme a entretenu avec Poutine au sein du KGB, un lien amical, ancien, qu'il a entretenu avec Poutine au KGB?
Une troisième question, oui.
Oui. Dans la crise qu'on traverse, il y a la question de l'argent aussi. Je pense que Jacques Ellul, il a dit des choses là-dessus. Il n'y a pas que la technique, il y a la question de l'argent. Et puis il y a cette phrase d'Anatole France qui circule là, on croyait mourir pour la patrie et on mourait pour les industriels. Je pense que ça peut être un éclairage aussi qu'elle nous donne par rapport à la crise que l'on vit.
Je voudrais ajouter simplement aussi la dépendance par rapport à la technique. On voit aujourd'hui que la technique dans ce conflit ne nous permet pas de faire ce que l'on veut. En particulier de défendre les Ukrainiens.
Alors la première question par rapport à la situation actuelle, notre impuissance face au conflit en Ukraine et la passivité intolérable de nos dirigeants. Alors, on peut discuter hein, sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, est-ce que nos dirigeants font les bons choix, est-ce que c'est de la prudence, est-ce que d'une part cette prudence permet d'éviter un troisième conflit mondial en sacrifiant comme en sacrifiant l'Ukraine. Est-ce que c'est de la lâcheté comme à Munich où on a sacrifié les Sudètes et en fait ça n'a pas du tout évité la guerre, ça a au contraire montré aux tyrans qu'on était faible. Et donc est-ce que ça peut pas se jouer avec ça, comme ça avec Poutine qui verra qu'on est faible et donc il continuera à avancer de pays en pays. Tout ça on peut en discuter. Bon, si on veut avoir la position des nuls, c'est difficile de faire parler les morts, mais voilà, qu'est-ce qu'il dirait qu'est-ce qu'il a dit par rapport au deuxième conflit mondial il a dit que, ça va peut-être vous surprendre, parce que je vous ai dit qu'il était non-violent, il était même anti-militariste et pour la non-puissance, mais il a dit qu'il y a des guerres qui sont nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'elles sont justes, mais qu'il faut parfois faire la guerre, non pas parce que c'est juste, mais parce que c'est nécessaire, mais parce qu'on les a rendues nécessaires. Il prenait l'exemple du deuxième conflit mondial. Qu'est-ce qui a conduit au deuxième conflit mondial? C'est le traité de Versailles. C'est la manière dont on a humilié la population allemande. Et donc, Jacques Ellul avait toujours une réflexion en amont. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter les guerres? Et si on ne le fait pas, ben on rend la guerre nécessaire et il faut peut-être la faire quand elle est nécessaire. Vous voyez, il n'était pas dogmatique, un pacifiste dogmatique. Il considère qu'il fallait tout faire pour éviter, avec une lucidité prémonitoire, éviter le nazisme. Et pour ça, et bien peut-être faire autre chose que le traité de Versailles, faire autre chose que ce qu'on a fait dans les années 20. Et donc, on peut transposer ça avec Poutine. Hein. Poutine considère que son pays a été humilié après la chute de l'Union soviétique. Et qu'est-ce qu'on a fait? Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour remettre de la dignité ou pour remettre de la coopération pour ne pas ostraciser ce pays qui est plus dangereux que l'Allemagne puisqu'il a la bombe atomique que l'Allemagne n'avait pas. Donc voilà, le raisonnement d'Ellul, c'est de dire évitons les guerres en amont au maximum par des relations de justice. Hein, justice et paix s'embrassent, dit le psalmiste. Hein, donc il s'agit pas seulement la paix, la paix, la paix, il faut la paix et la justice. C'est la justice qui permet d'asseoir la paix. Et parfois, ben, voilà, le 6 juin 1944, il fallait peut-être débarquer quand même, dit Ellul. Hein. Il y a les pacifistes qui disent non, qui se disent non. Hein. Mais Ellul disait, le 6 juin 1944, il fallait débarquer parce qu'on a rendu le débarquement nécessaire. Mais on l'a rendu nécessaire, ce qui n'est pas une manière de justifier la guerre. Il fait très attention en disant, la guerre n'est jamais juste, il n'y a pas de guerre juste. Il s'inscrit en faux contre la tradition théologique de la guerre juste. Il n'y a pas de guerre juste, mais il y a des guerres nécessaires. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont nécessaires qu'elles sont justes, parce qu'on fait de nécessité vertu, alors qu'on ne devrait jamais faire de nécessité vertu. On devrait reconnaître la nécessité, mais pas la vertu. Alors, c'est la position des lunes, hein, on peut la discuter. Pour ce qui concerne le patriarche de Moscou, qui soutient Poutine, alors c'est un soutien religieux et amical, je pense qu'il y a les deux. Néanmoins, il a un discours religieux qui a certainement un impact sur la population croyante orthodoxe de Russie, puisqu'il a, dans son homélie de dimanche dernier, il a dit clairement qu'il fallait lutter contre les forces du mal qui se trouvent voilà, chez les néo-nazis de Kiev. Donc il met du religieux dans les justifications de la guerre. Et c'est en cela que, me semble-t-il, il y a du religieux dans cette guerre. Elle n'est pas totalement religieuse, mais elle est justifiée par un discours religieux qui n'est pas n'importe lequel. Donc, le patriarche Kirill a été agent du KGB. C'est pas si étonnant que ça. Pour ma part, j'ai enseigné en Arménie, hein, à l'université d'Erevan, à la faculté de théologie orthodoxe, apostolique, c'est-à-dire orthodoxe d'Erevan. Eh bien, le doyen de cette faculté, il était professeur de marxisme-léninisme. Et puis quand l'Union soviétique a explosé, il est devenu professeur de théologie orthodoxe. Voilà, c'est des choses qui semblent assez classiques dans ce qui est devenu l'ancienne Union soviétique.
Une autre forme d'orthodoxie.
Voilà, et c'est une forme aussi de dogmatisme, c'est-à-dire que voilà, ce que dit Ellul, c'est qu'on va mourir pour la vérité, c'est-à-dire pour une vérité absolue qui était, bon, c'était peut-être marxisme-léninisme, maintenant c'est la vérité de la pure orthodoxie. Orthodoxie voulant dire déjà vérité, hein, voie droite. À propos de l'argent, Jacques Ellul a consacré un livre passionnant qui s'appelle L'homme et l'argent, hein, à cette question. Et effectivement, l'argent, il n'y a pas que la technique, il y a l'argent aussi qui est en jeu dans toutes ces crises. Et là, Jacques Ellul a une position assez intéressante dans une perspective théologique chrétienne, hein, puisqu'il relie tous les textes bibliques, ils sont nombreux, qui parlent de l'argent. Il montre que lorsque la Bible parle de l'argent, c'est jamais un traité d'économie qui nous parle de l'argent de manière objective, mais toujours de mon rapport à l'argent. Ce sont toujours des textes existentiels qui parlent du rapport à l'argent et pas de l'argent comme quelque chose d'objectif. Et puis, il nous dit ceci, il l'interprète à partir des textes bibliques. L'argent, c'est une puissance spirituelle. Dans la Bible, on l'appelle Mammon, donc il est personnifié, hein, c'est une puissance spirituelle, c'est pas seulement un objet. Et donc, il s'agit de profaner cette puissance spirituelle, non pas pour se passer d'argent, mais pour l'utiliser sans qu'il nous domine. Et il dit, il y a quatre façons classiques d'utiliser l'argent: acheter, vendre, épargner, investir. Eh bien, toutes ces façons-là nous mettent sous la domination de l'argent. Il y a une cinquième façon d'utiliser l'argent de manière à nous en émanciper, c'est-à-dire à continuer à l'utiliser sans en être des idolâtres, c'est le don. Donner l'argent, dit-il, c'est utiliser l'argent pour une fonction qui n'est pas prévue. L'argent n'est pas fait pour être donné, l'argent est fait pour acheter, vendre, investir ou épargner. Mais si on donne l'argent, alors on désamorce la puissance spirituelle de l'argent et on s'en libère. Alors, il ne s'agit pas de tout donner, de toute façon ce n'est pas possible, mais il s'agit, par exemple, et c'est ce que lui a essayé de faire, hein, il était professeur d'université, donc il avait un salaire régulier, mais il calculait ce dont il avait besoin en ayant des besoins relativement limités, et tout le reste il donnait. Donc il ne devenait pas un mendiant, il donnait tout ce qu'il pouvait donner parce que c'était en surplus de ses besoins. Alors chacun peut imaginer ce qu'il peut faire, et puis il ne nous dit pas qu'il faut faire ça, hein. Mais il nous dit, voilà, c'est une manière de profaner l'argent, de désamorcer la puissance spirituelle de l'argent, c'est de le donner. Après, vous décidez à qui vous le donnez, hein. Vous donnez à l'Église ou à d'autres, décidez à vous de savoir à qui le donner, mais vous verrez qu'en le donnant, vous vous en libérez. Enfin, la dernière question, c'était la dépendance par rapport à la technique. Oui, la technique ne nous permet pas de défendre les Ukrainiens. Effectivement, on voit bien que pour défendre les Ukrainiens, il faudrait rentrer dans l'engrenage d'un surcroît de technique pour être encore plus puissant que les puissants. Et donc là, c'est un engrenage. Et tout le monde y perdrait sans doute, hein. Donc nous sommes effectivement dépendants d'une technique qui, en réalité, s'avère elle-même impuissante. C'est quand même le grand paradoxe de cette technique. La puissance technique, eh bien, elle est très grande, mais face à certaines situations, elle est impuissante.
Ma question était encore autre. Nous sommes dépendants des énergies, oui, fournies par ces pays-là, et aujourd'hui, on voit bien que si on se passe de ces énergies, notre monde se casse la figure, quoi.
Oui, alors il y a une dépendance, on en parle beaucoup en ce moment, hein, à l'égard notamment du gaz, du pétrole, mais aussi du nucléaire, hein, puisque le nucléaire français a besoin de l'aide de la Russie et de l'uranium du Niger. Hein. Il faut toujours le rappeler que le nucléaire, ce n'est pas l'indépendance nationale, loin de là, puisqu'on a besoin de l'uranium de l'étranger et de l'aide de certaines parties de nos centrales qui sont fabriquées en Russie. Donc là aussi, il y a effectivement une dépendance. Bon, le projet politique, on va dire, de Yul, c'est une société de sobriété, de souveraineté alimentaire et économique, qui permet de ne pas dépendre de ressources étrangères et de vivre simplement de manière à pouvoir assumer ses besoins de base. Il s'agit donc mais il s'empressait de dire, mais personne n'est prêt à ça. Mais n'empêche que pour lui, c'était ça la solution, c'est de vivre de manière... Il le dit déjà dans un texte de 1935, hein, donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écologistes, il disait « une cité ascétique ». Voilà ce qui nous permettrait de vivre, une cité donc de sobriété, qui éviterait d'être dépendant et de la technique et des ressources qui ne sont pas chez nous mais à l'étranger.
Une petite question. Une dernière question. Oui. Vous connaissez le livre Ce que je crois, je pense.
Oui.
Est-ce qu'il résume bien la pensée de Jacques Ellul ?
Une partie de la pensée, c'est un livre confessant, hein, donc c'est une partie de la pensée. Il parle de sa foi, hein, en qui il croit, qui est Dieu pour lui, qui est Jésus-Christ pour lui, quel est le salut universel, bon, pour lui il croit au salut universel, pourquoi, donc c'est là qu'il développe cette idée-là, voilà, mais c'est une partie de la pensée. Si vous voulez un livre qui vous permette de faire le tour de la pensée d'Ellul, et qui est accessible, hein, parce qu'il y a des livres plus difficiles que d'autres, je pense que le meilleur, c'est un livre qui s'intitule « À contre-courant », qui est un livre de poche en plus, donc un prix modique, qui est un livre d'entretien, publié juste après sa mort, donc il fait le tour de sa vie et de sa pensée en 300 pages, accessible puisque c'est un livre d'entretien et pas trop cher, donc « À contre-courant », les entretiens de Jacques Ellul avec Patrick Chastenet. C'est, à mon avis, si vous voulez rentrer dans tout l'ensemble de l'œuvre, une bonne synthèse, c'est celui-là.